continuer. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez en tête. Ça, c'est un diaporama que que je vous avais passé partiellement en M1, dans le cours de stratégie. Hein, je vous le remontre juste, je ne vais pas le passer là. Soit vous l'avez en tête, c'est super. Soit vous ne l'avez pas en tête, eh ben, je vous suggère d'aller peut-être le revoir. C'est là où je me servais de Collins et Porras pour montrer les valeurs qu'ils avaient sorties dans leur travail, dans leur étude. Hein. On a vu en citer deux ou trois en M1, j'en prends deux ou trois là-dedans. On réfléchit dessus, mais je ne prends pas toutes celles qui sont dans le bouquin. Dans le diaporama, vous aviez American Express, Ford, Hewlett-Packard, General Electric, vous voyez les dates, hein. Les laboratoires Merck, Motorola, 1928, Altria, c'est Philip Morris. C'était pour insister sur le fait que les valeurs ne sont pas toujours des valeurs sympathiques. Les valeurs, ce n'est pas les bisounours. Ce n'est pas toujours du gentil, tout mignon, tout... Non. Ça peut être parfois... voilà. Quand on lit ça dans les valeurs de Philip Morris, ouf! Hein, ça montre que c'est pas toujours un langage convenu, langue de bois stupide et compagnie. Ça peut être très violent. Alors c'est peut-être moins violent dans la société américaine que dans la société française. On avait dit aussi en M1 que les valeurs étaient révélatrices de la société dans laquelle elles étaient nées et dans laquelle on les mettait en exploitation. C'est vrai que dans la société française, on a vu ce débat l'an dernier. D'accord. Donc ça, vous le repasserez. On y avait mis Sony, puis etc., etc. Bon. Bien. Donc voilà. Ça, c'était un diaporama qu'on avait vu l'an dernier. Je vous suggère d'y rejeter un petit coup d'œil parce que pour ce qui va suivre, on en a bien sûr besoin. Et je ne vais pas vous refaire un topo sur les valeurs puisqu'on l'avait déjà fait. D'accord. Donc soit vous l'avez en tête, c'est super. Si c'est pas le cas, bah vous faites un clic dessus puis vous le trouvez. C'est pas compliqué. Voilà. Alors j'en reviens à notre à notre diaporama d'aujourd'hui, on va passer donc sur la suite. Le fameux, le célèbre schéma que vous connaissez, voilà, hein, que je fais venir. Voilà, alors, ce schéma, on l'a déjà explicité, je crois qu'on va passer vite dessus. Est-ce une bonne idée d'avoir pris... Pourquoi pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher ça? En fait, ce qu'ils ont voulu montrer, c'est parce que quand on dit Yin Yang, oui, c'est joli, tout le monde croit connaître ça, on parle Yin Yang, Zen, machin. Ça veut dire quoi quand même, comme message derrière? C'est un message qui est fort pour nous occidentaux. C'est pour ça, peut-être que je vous fais juste un tout petit rappel de la force de cette symbolique pour nous occidentaux. Ouais, bon, vous n'êtes pas branché là-dessus, non? Parce que c'est marrant, vous voyez, c'est un schéma que tout le monde connaît. On va dire, ouais, oui, non, c'est bon, je connais, ça va. Je vais pas raser avec ce truc. Je connais ça depuis la naissance. Non, mais il y a une chose très forte derrière, un sens très fort. Ouais, on trouve un petit peu ça. C'est le fait de dire qu'il faut cesser de penser le monde de manière duale. C'est ça l'idée. C'est que nous, occidentaux, on est dans la dualité. On a déjà développé ces idées. Le bien, le mal. Le vrai, le faux. Dans des oppositions dialectiques fortes. C'est ce qui nous structure depuis 2000 ans. Avec des différences locales selon les pays, mais enfin c'est quand même ça. Donc nous sommes, nous autres, dans la dualité. Dans l'opposition des contraires, dans la tension des contraires. Et nos plus grands philosophes, Hegel, ou je ne sais pas trop quoi, ils raisonnent sur la dialectique de la raison, c'est pas rien. D'accord? Et ce symbole montre que, plutôt que de dire qu'il y a opposition, on devrait dire qu'il y a tension, et que s'il y a tension, il y a mouvement, dynamique, et donc complémentarité. Et qu'on ne peut envisager l'un sans l'autre, et que les deux sont complémentaires. C'est ça l'idée. Vous voyez? Alors ça marche aussi pour le masculin-féminin, par exemple. Hein, masculin-féminin, c'est radicalement opposé. Bah, ça montre au contraire. Il y a du masculin dans le féminin, il y a du féminin dans le masculin, etc. C'est toutes ces idées qui, je pense, aujourd'hui, passent assez bien, parce qu'il y a tellement eu de films, série de je ne sais quoi, que peut-être pour vous c'est quelque chose qui est à peu près acquis. Mais n'oubliez pas que quand on présente ce genre de schéma très très symbolique, parce que c'est pas tout récent ce truc, hein, quand même, c'est les Sanskrits qui ont inventé ça. Et donc c'est le dépassement, hein, le dépassement de l'opposition dialectique en allant vers la complémentarité. Donc on dépasse par la complémentarité. Ce qui n'est pas bien dans la pensée occidentale, la plus classique, la plus traditionnelle, telle qu'elle existe, je vous l'ai dit, il y a à peu près 2000 ans. Ok, hein, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Sinon, vous ne comprenez pas pourquoi Collins et Forrest, qui sont des gens légèrement cultivés, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pris? On pourrait dire qu'ils l'ont pris parce que c'est la mode, quoi. Hein? Non. Il y a des raisons, qui ne dis pas d'ailleurs, hein. Il y a des raisons très très fortes derrière. Alors, bon, ces résumés-là, on doit préserver l'essence, c'est tout le travail sur l'identité, les valeurs, le fait que j'ai rappelé les valeurs tout à l'heure, du fait que l'an dernier, on avait beaucoup insisté sur l'identité, dire qu'une stratégie doit toujours être fondée sur valeur et identité, et la vision aussi. Mais si on est trop dans l'essence, dans l'identité, on ne progresse pas. C'est tout ça qui est derrière. Et qu'on doit en même temps stimuler le progrès. Et que pour stimuler le progrès, on ne peut pas non plus ignorer l'identité. Et c'est pour dire que si je fais du passé table rase. Ça va, personne n'agit quand je dis. Si je fais du passé table rase, normalement, quand on dit ça, toujours un petit sourire qui s'esquisse sur certains visages. Ils s'amusent. Je vais pas vous chanter, non. Bon, ça va. Ouais. Faisons du passé table rase. Non, c'est bien ça. Donc si je fais du passé table rase, ce qui est une option philosophique importante et lourde, et qui a quand même occupé les esprits de millions de gens pendant des décennies, quand même. Et on ne va pas faire du passé table rase, de ce passé-là, on ne va pas faire du passé table rase, comme ils le disent. Bon, donc si je fais du passé table rase, je ne suis plus dans préserver l'essence et le progrès que je vais stimuler, il sera coupé de tout, il ne sera pas enraciné dans ce qui existe et il sera tôt ou tard rejeté. C'est ça l'idée. C'est que ce sera tôt ou tard rejeté. Si je ne suis que dans l'essence, eh bien je vais répéter à l'infini des schémas dépassés et je vais mourir. L'idée de ce schéma, c'est que la vie, le mouvement, la dynamique, c'est en équilibrant les deux. Et l'autre idée, c'est de dire que cet équilibre est dynamique. C'est-à-dire que c'est sans cesse en train de varier. À certains moments, il faudra mettre beaucoup d'essence et moins de progrès. À d'autres moments, il faudra mettre beaucoup de progrès et moins d'essence. C'est jamais 50-50. Ça tourne, hein, ce truc. D'où la forme. Ça tourne. Bon, et si ça tourne, ça sera peut-être 90-10%. 90% de stimuler le progrès, et puis seulement 10% de valeur. Et à d'autres moments, on aura besoin de se ressourcer, comme on dit, de retrouver ses racines, vous voyez tous ces termes, hein, de retrouver ses racines, et là, on mettra 60-70%, peut-être 80%, voire le contraire, hein, de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire 90% sur l'essence et seulement 10% sur le progrès. Mais ça change sans arrêt. Et nous, occidentaux, on a aussi un peu tendance, quand on voit ce schéma, à le voir de manière trop statique. L'idéal serait un schéma tournant, quoi. Hein? Ça tourne sans arrêt, et si ça tourne, c'est bien pour montrer qu'en fonction, alors, de l'environnement, du contexte, hein, tout ce que vous voulez, on aura à s'articuler autour des deux pôles qui sont là. C'est le message essentiel de Collins et Porras, sur lequel on va ensuite construire, bâtir la fameuse vision, hein, articulatique. Voilà, c'est là-dessus. La vision va prendre naissance de cet équilibre dynamique entre l'identité, les valeurs, et le progrès, l'innovation. D'accord ? Non, ça c'est bien vu. Au fond, ce qui nous disent un petit peu, mais sans le dire vraiment, c'est ce qui est très marrant d'ailleurs, parce que ou qu'ils l'avaient, bon, je pense que maintenant vous l'avez un petit peu eu, est-ce qu'ils font référence à la pensée, on va dire, orientale, bouddhiste, parce que ça c'est en sanskrit, bouddhiste, pour parler vite. Est-ce qu'ils y font référence dans leur bouquin, vous qui l'avez lu? Jamais. Hein, mais je préfère que ce soit vous qui disiez, hein, jamais. Il n'y a pas une ligne là-dessus. Ça va de soi qu'il n'y a pas de ligne, mais ça suppose aussi que ça s'adresse à des gens qui le savent. Et ils font le présupposer que leurs lecteurs sont au courant de cette interprétation que je vous donne. Alors à savoir si les lecteurs qui ont lu le bouquin, ils le savent, je ne sais pas. En tout cas, moi j'insiste fort pour dire que c'est quelque chose de dynamique, on est bien dans les complémentarités, on est opposé à notre dualisme fondamental occidental, que nous, en France, on pourrait dire cartésien aussi, parce qu'on a quand même Descartes qui est là, hein, qu'on avait vu l'an dernier, et ça s'y oppose nettement, parce qu'on est dans la dynamique. Alors, attention, je crois que je vous l'avais dit, dans le bouquin, il y a le mot idéologie qui apparaît sans cesse, faites très très gaffe, le mot idéologie américain n'a rien à voir avec le mot idéologie en français. Idéologie, pour nous, c'est très politique, enfin, bon, je fais pas un dessin. Eux, c'est tout à fait différent. On pourrait dire quoi? D'ailleurs, dans le bouquin, ils ne l'ont pas traduit comme ça, mais ça serait pratiquement culture. On pourrait très bien dire culture. Ça serait plus proche de la façon dont nous, on entend ces choses-là. On pourrait peut-être critiquer un petit peu le... Bon, alors culture, valeur, identité, on est dans le même thème, mais surtout pas dans l'idéologie au sens politique du terme. Alors, il y a une chose qui, en termes de communication, a dû vous attirer tout de suite, c'est vivide. Hein? Donc il faut des descriptions vivantes, attractives. C'est le propre de la com, non? Et là, ça va être à la com de pouvoir nous donner cette vision la plus descriptive, attirante. Si on dit vision, il faut qu'il y ait du visuel, c'est la moindre des choses. Et puis vous y retrouvez. Alors c'est peut-être ça l'outil le plus essentiel à avoir en tête. On l'avait déjà un petit peu dit, ça. On a la vision. On la partage avec du recrutement adapté, avec une communication adaptée, ok. Bon, est-ce que c'est suffisant pour réussir? Colin Séporas montre que non. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Vous l'avez sous les yeux. Et ça, c'est une découverte. C'est les fameux. Alors, en français, c'est les grands. C'est les GOA. Là, j'ai GOA, je ne les traduis pas. Ouais, non. En tout cas, c'est les BH, les Big Hairy Audacious Goals, les grands objectifs audacieux ou ambitieux. Ça veut dire que les entreprises qui sont dans la vision se doivent, tous les, ils disent 10 ans, 30 ans, entre les deux, se doivent de se fixer des objectifs qui fassent peur. Et ça recadre l'objectif dans la vision. La vision, c'est du domaine des finalités, c'est pas ce qu'on va atteindre. L'objectif, au contraire, on doit se donner les moyens de l'atteindre. Donc on retrouve bien l'articulation entre finalité et objectif, on se donne des objectifs. Mais les objectifs, alors ça c'est une critique fondamentale qu'ils font. Pendant on va dire, toutes les années de l'après-Seconde Guerre mondiale, les grandes entreprises et les grands cabinets de stratégie, les McKinsey, entre autres, puis tous les grands cabinets, se sont spécialisés dans la définition de grands objectifs. On appelait ça les plans stratégiques. Les fameux plans stratégiques qu'on a critiqués. J'ai un diaporama exprès pour le critiquer. Hein, je voulais passer en version accélérée. Donc, on a construit des plans stratégiques. Leur dernière évolution en France, c'est quoi? Ça s'appelle comment? On a des plans stratégiques, grosso modo, jusqu'aux années 80, ça dépend des lieux, à peu près. Et à partir des années 80-90, on a moins employé plan stratégique, qui fait vieillot, et on l'a remplacé par, on avait dit ça, projet d'entreprise. D'accord? Projet d'entreprise. Et dans le public, ça c'est pareil, projet d'entreprise c'est entreprise privée, d'accord. Et dans le public, donc dans les mairies, dans les départements, dans les ministères, dans les grandes organisations publiques ou parapubliques, on appelle ça le projet de service. Nous avons eu ici plusieurs mémoires sur les projets de services dans les administrations. Vous savez, tous ces gros trucs, qui aujourd'hui s'appellent par exemple la DDT, c'est bien le formidable, direction départementale des territoires, qui regroupe les DDE, DDA, DDRF, machin, tous ces trucs, eh bien, on a fait depuis 20 ans des projets de services, pour ne pas dire projets d'entreprise, ça ne s'appliquait pas, je ne vais pas dire entreprise dans un hôpital. Eh bien, dans un hôpital, on dira projet de service. D'accord ? Donc, les projets de service, projets d'entreprise, avant, les plans stratégiques présentaient des objectifs, on va dire le plus souvent assez technocratiques, rappelant la planification soviétique. Ça, on l'avait dit l'an dernier. Collins Porras le dénonce, montre que si vous faites de la planification stratégique, du projet de service, du projet d'entreprise, c'est pas ça qui fera revenir sur la motivation. Et là, ça va être une deuxième réponse à votre question. De tout à l'heure, enfin, non, j'en suis pas à deux, j'en suis à trois, quatre réponses. Enfin, encore un nouvel axe. Parce que, je repense ce truc-là. Si on est dans la vision, d'une part, si on a recruté des gens, on m'a semblé dire tout à l'heure que la motivation, elle allait de soi. Ça vous embête que je reprenne Al-Qaïda encore ? Vous recrutez des individus complètement sectaires. Ils ont la motivation. Pas de problème, ils ont la vision, etc. Oui, mais qu'est-ce qui fait que l'organisation va pouvoir durer ? Va-t-il pour durer ? Ça marche aussi. C'est les big, hairy, audacious. Les grands objectifs audacieux. Le truc qui fasse peur. L'idée de ces GOA en français, de ces grands objectifs, c'est qu'ils doivent vous faire peur. Et c'est là où on va regagner la motivation. Parce que ce qui motive les gens, c'est pas le discours motivationnel classique. C'est de dire on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais, tellement c'est fort. Et c'est quand vous dites on n'y arrivera jamais que là, vous allez y arriver. On trouve un petit peu dans ce qu'on avait dit du discours motivationnel qui est quand même important avant une bataille. Ça, je vous l'avais fait en stratégie l'an dernier. J'ai plusieurs exemples, enfin, il y en a un que j'affectionne, vous rappelez duquel. Vous pouvez le refaire vous-même, c'est fort. Non ? Peut-être que vous avez vu le film, il y en a plein des films là-dessus, mais l'an dernier, j'avais fait quoi ? Shakespeare. Henri V, le grand discours de Henri V avant la bataille d'Azincourt. Vous vous rappelez ? Il y en a un qui nous le rappelle ? Ben pour vous qui ne l'avez pas eu, parce que la bataille d'Azincourt, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, 1415. Allez ! Parce que quand même, hein, je reviens sur cette histoire de motivation. Rappelez-vous, alors c'est écrit par Shakespeare, donc c'est fabuleux, et il y a un film avec cet immense acteur anglais, qui est peut-être encore, pour moi je le place bien au-dessus de Laurence Olivier, c'est pas rien, cet immense acteur anglais qui interprète tout Shakespeare, son Hamlet est extraordinaire. Kenneth Branagh, il dit quelque chose quand même. Bah, il a joué dans des films très grand public comme Océan, Even, je sais plus quoi. Non ? Vous n'avez rien. Frankenstein aussi, c'est lui. Kenneth Branagh. Je pense que c'est le plus grand acteur anglais, il y a le plus grand acteur. Enfin, c'est le type qui vous fait les pièces de Shakespeare adaptées pour le cinéma d'une manière absolument magistrale. Non, ça ne vous dit rien. Bon, tant pis. Je ne vais pas vous raconter le film. En tout cas, dans Henri V. Mais ça, je vous l'avais dit l'an dernier, hein, c'est pas bien de ne pas l'avoir vu. Donc, Kenneth Branagh, la situation, c'est la suivante, je vous le redis parce qu'on est quand même passé, mais il faut avoir ces trucs-là en tête, en particulier pour la motivation. Hein. Bon, vous êtes le roi anglais, ça se passe en Normandie, dans la France. Vous êtes isolé de votre pays, vous êtes en Normandie, en Angleterre, c'est loin, il y a la Manche à traverser, et en 1415, hein, bon, d'accord. La Manche, c'est pas rien quand même à traverser pour les bateaux de l'époque, ok ? Isolé de tout. Coupé de vos bases. Ça fait des mois que vous êtes en France. harcelé par, etc. Va arriver une grande bataille. Vous avez devant vous, pour la bataille, toute la cavalerie française. Donc toute la noblesse française, plus l'infanterie. Toutes les troupes françaises sont là. Et vous êtes peu nombreux. Vous voyez, vous y êtes ? Vous vous rappelez de ce discours ? Et là, si, pourquoi la critique de la motivation, moi je veux bien, mais je ne suis pas totalement d'accord. Vous voyez, maintenant je vous le dis, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que je suis resté sur le plan intellectuel, sur le plan des idées, des ouvrages dont vous avez parlé. Maintenant, j'apporte une autre réponse encore pour dire que je ne suis pas totalement d'accord avec ce discours de critique, on va dire, de la motivation et du discours motivationnel. Je suis d'accord pour le discours motivationnel nul. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes une grande famille, nous allons vivre. Si c'est pour dire ça, merci, la motivation, ciao. Je suis d'accord pour le décalage entre les discours et les actes. On a un discours motivationnel, on est une grande famille, on sait très bien quand même qu'on n'est pas tous dans un, hein, la salle à manger du personnel, bon, on ne va pas mélanger les cadres, et bon, si c'est comme ça que ça se passe, discours motivationnel, ciao, bonsoir, pas la peine. Mais quand il s'agit d'un discours motivationnel tel que Shakespeare le met en scène, ça s'est fait dans la réalité, dans un certain nombre de très grandes circonstances, là, il y a une vraie motivation. Alors, vous en rappelez de ce truc ou pas ? Non, vous voyez pas ? Non ? Bon, on n'a pas le temps de chercher, je suis sûr que sur le net, hein, vous trouvez ça sur YouTube et Dailymotion. Henri V, Kenneth Branagh, Patrick d'Azincourt. Donc, qu'est-ce que dit le roi ? Vous en rappelez pas ? Je vous le fais en plus court que l'an dernier. Il commence donc devant ses troupes. Ils savent qu'elles vont livrer bataille devant un ennemi, le rapport c'est de 1 à 10 environ. Eux, ils n'ont quasiment pas de cavalerie, et il y a toute la cavalerie française, je vous le rappelle quand même. Donc le discours, c'est de dire, de commencer par dire qu'ils vont livrer leur plus grande et leur dernière bataille, que c'est un jour absolument historique, dont toute l'histoire anglaise se souviendra, et là ça devient très fort, alors ça dure un petit peu quand même, hein. Là où ça devient très fort, vous n'arrivez pas à vous en rappeler quand même. Il dit, donc en regardant ses troupes, alors c'est Shame, hein, bon, la langue de Shakespeare est tellement belle qu'elle est inimitable, et donc il dit, honte, honte pour ceux qui ne vont pas mourir aujourd'hui. Vous voyez, vous en souvenez ? La gloire aujourd'hui, c'est de mourir. Honte pour ceux qui vont rentrer s'il en reste, parce que ceux qui vont faire l'histoire de notre pays, ceux qui vont mourir aujourd'hui seront immortels. Parce que grâce à eux, on aura changé le cours du monde, etc. etc. Rappelez de ce discours. Le faire. C'est-à-dire que vous allez tous mourir, les amis, et que ceux qui ne vont pas mourir, eh ben, la honte sera sur eux. C'est extraordinaire comme discours. Si avec ça, vous me dites qu'il n'y a pas de motivation, moi je veux bien, mais je m'interroge un peu quand même. Il y a un certain nombre de grands discours de cet ordre-là. Tous les grands discours, surtout militaires, par les très grands chefs militaires, ça a toujours été un petit peu comme ça. C'est de survaloriser, de surreprésenter. Bien sûr, on méprise parfois la réalité. Bien sûr, quand on dit on méprise, parfois on comprend les gens. Hein, que vous me disiez qu'il y a la manipulation derrière. Bien sûr que oui. Mais le résultat, c'est que il y a quand même eu une motivation très très forte. Et donc le résultat des batailles, vous savez, il y a deux arguments, j'avais dit en M1, ça. Et le fait que le discours en question a très fortement motivé. Et le deuxième argument, rappelez-vous, c'est l'argument technique, technologique. Les archers anglais avaient des arbalètes qui tiraient plus loin que les archers français. Et que les batailles de l'époque ont fait avancer l'infanterie, qui était décimée par les arbalètes, et qu'une fois que l'infanterie avait épuisé une grande quantité de flèches, on envoyait la cavalerie. Bon, sauf que là, les arbalètes anglaises, elles n'ont pas tiré sur les fantassins qui leur arrivaient dessus. Elles ont tiré derrière les lignes. Et elles ont décimé la cavalerie française. Et la cavalerie, c'était la noblesse. Hein, à l'époque, c'était ça, la cavalerie. Donc, tous les fils de la grande noblesse française, ils se sont trouvés, pour une bonne partie, tués, blessés, etc. Ce qui fait que ça a démoralisé les lignes, vous retrouvez Sun Tzu. Ça démoralise l'église, etc. Mais tout à des courses, ils ont réussi à gagner cette bataille alors qu'ils étaient en nombre inférieur, etc. Et c'est filmé magnifiquement par Branagh. Bon, alors, ça, c'en était un objectif, un grand objectif ce jour-là. C'était de dire, on n'a aucune chance pour nous, on est battus, on sait qu'on n'a pas l'avantage du nombre, on sait qu'on n'a rien, il faut quand même qu'on inscrive notre nom. En fait, ça, c'est inscrivons notre nom dans l'histoire. Bon, voilà, alors, c'est ce fameux schéma qui reviendra toujours, qu'il faut avoir en tête, mais j'insiste, et très fort sur le fait que ce truc-là, ça tourne. Ça tourne sans arrêt, et qu'on n'est jamais à 50-50. Si vous preniez ça pour dire « je mets 50% d'essence et 50% de progrès », j'ai rien compris à rien. Ça oscille tout le temps. Et c'est en ça que c'est, intelligent de la part de Colin Séporas que d'avoir repris, sans le dire, ce schéma qui montre l'opposition dialectique entre deux mondes qui s'opposent, on aime bien ça nous, et deux mondes qui se complètent. Ça serait l'apport, la pensée orientale. Bon, voilà, les grands objectifs. Alors, les grands objectifs, oui, on peut les traduire par ambitieux ou audacieux. Hein. Bon, audacious se traduit par audacieux. Le plus souvent, là, dans la diapo, j'ai mis ambitieux. C'est un peu les deux à la fois. Je voulais en parler à un prof d'anglais, si vous voulez. C'est un petit peu les deux à la fois. Ambitieux, bah tiens, c'est bien. C'est pas coupé. Bon. Ambitieux, c'est... Si vous voulez, je me méfie de audacieux, parce que audacieux, il y a peut-être parfois l'absence de prudence. C'est dans ça qu'on peut avoir de l'ambition pour une organisation, et parfois il faut de l'audace, mais donc c'est un petit peu entre les deux. Mais vous prenez celui que vous voulez, alors ils doivent être à la fois qualitatifs et quantitatifs. Là, on retrouve ce que je vous ai passé tout à l'heure, enfin ce que je vous ai rappelé, pas passé tout à l'heure, hein. Donc il y a une partie des grands objectifs de ces entreprises qui ont duré, hein. Bon, voilà, General Electric, Sony, ça c'est une très impressionnante, hein, changer d'image. Vous voyez aussi que parfois, ces GOA peuvent se transformer. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que GOA et vision, ça peut être la vision. Parce que ça, au départ, c'était la vision de Sony. Et puis petit à petit, c'est devenu un grand objectif, et puis bah, ça a fonctionné. Puisque le Made in Japan est devenu à peu près l'équivalent du Made in Germany. Donc la vision et le grand objectif sont parfois très proches, tout dépend du niveau, on va dire, du niveau de généralité que ça présente. Quand c'est très général, c'est purement la vision. Quand c'est décliné en objectif qualitatif, quantitatif, précis, ça devient de l'ordre de l'atteignable, qui quitte à y passer un temps suffisant. Alors, il y a tout un travail sur les valeurs. Voilà. Le plus intéressant dans ce titre-là, on va dire, c'est comment trouver ce qui est vraie valeur et ce qui est fausse valeur. Alors, les valeurs, c'est pas les références stratégiques, c'est pas les références culturelles, c'est pas les références techniques. Donc déjà ça vous évacue plein de valeurs, et vous, quand vous allez devoir travailler sur les valeurs, bon, très bien. Et ça doit répondre aux questions qui sont là. Et les questions très difficiles que pose Colin Séporas pour savoir si ce sont des vraies valeurs, la première, c'est celle-ci. Doit-on conserver cette valeur même si elle pénalise alors que l'environnement a changé ? La qualité, par exemple, de ce point de vue, est-ce que c'est une vraie valeur ? Quand vous regardez les études sur les valeurs des entreprises françaises, je vous avais apporté le bouquin de Thierry Wellhoff l'an dernier. Non, je ne sais plus, on sent. En tout cas, il y a deux bouquins sur les valeurs des entreprises françaises, un indicateur des valeurs fait par Thierry Wellhoff et d'une agence de publicité qui s'appelle Wellcom, dont ils ont parlé l'an dernier. En France, comme dans pratiquement tous les pays, on trouve dans le trio la qualité, l'innovation, ça fait deux pour l'instant, on verra le troisième après. Bon. On se pose la question, est-ce que quand on met la qualité comme une valeur, est-ce que c'en est vraiment une au sens de Colin Séporas ? Est-ce que ça répond à la question, est-ce qu'on la conserve quand elle pénalise ? Il y a un certain nombre d'entreprises qui, sur la qualité, vont baisser, vont transiger. D'accord ? On connaît tous dans le domaine alimentaire, là c'est plus évident. quand vous êtes pressé de toutes parts pour baisser vos prix, augmenter votre productivité dans le domaine alimentaire, qu'est-ce que vous allez souvent faire? Vous allez baisser un petit peu la qualité, parce qu'on considère que la plupart des gens ne verront pas la différence. Hein, ça sera un peu sensible. On n'a pas des instruments de mesure très précis, vous allez baisser un petit peu la qualité. Dans le monde industriel, ça peut se faire aussi, mais peut-être un peu moins facilement. Et donc, quand on fait passer la qualité à cette question, si on fait baisser un tant soit peu la qualité alors que l'environnement a changé et est devenu plus difficile, la réponse, bah, c'est de dire que, est-ce que la qualité, c'est une valeur? Non, c'est pas une valeur. Paf. Contrairement au discours dominant. Autrement dit, c'est en période de crise qu'on va pouvoir observer finement les valeurs et trier celles qui en sont vraiment de celles qui n'en sont pas. Ensuite, on prend l'innovation. Ben, l'innovation, il y a des entreprises dans lesquelles, quand ça va très mal, on ne touche pas au budget innovation. Exemple tout bête. Donc vous êtes dans une boîte, ça va très mal. Qu'est-ce qu'il faut que vous vous verriez comme personnel? Les gens qui sont à la recherche innovation ou administration? Et le reste? La décision est immédiate. Vous virez les administratifs. Moi, je l'ai fait à un moment, ça allait mal dans l'association que je présidais. On a viré une. Hélas, un problème. On a dû se séparer par de manière plus correcte. On a dû se séparer de ce fait. J'ai pas voulu qu'on se sépare d'un chef de projet. Parce que le chef de projet, bah, il était là pour innover, nous trouver des projets. Donc le choix a été vite fait, c'était triste pour la secrétaire. Et si vous faites ça en termes d'habitude, alors finalement, vous gardez les cadres et vous virez les cadres. C'est pas facile à défendre. Qu'on peut vous le poser très facilement. Alors, prenez compte de dire, En plus, si vous êtes très méchant, vous allez dire que le cadre, il peut faire le boulot de ses pas. Moi, c'est ce que je dis ici, quand ils m'embêtent dans les services administratifs. Alors, dites donc, avec vos réglementations à la gomme, là, attendez, hein, bon, votre boulot, ça va pas m'amuser, mais je suis sûr que je peux le faire. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire le mien? C'est comme ça que je leur ai parlé, déjà plusieurs fois. Ah ouais. Quand ça va mal, c'est ce que je dis. Ah, généralement, ça les calme, ils foutent la paix, terminé. Non, mais il faut rappeler les gens à ce qu'ils sont aussi de temps en temps. Autant il faut être gentil, cool, tout ce qu'on veut, convivial, aimable, bien élevé, poli, tout ce que veut. Mais à un moment, il ne faut pas dépasser certaines limites, quoi. Hein, ça va se passer bientôt, il va y avoir un clash, on me redemande. De bien vouloir donner la liste des chargés de cours pour que qu'ils soient acceptés par une commission bidon qui va savoir si les chargés de cours que je choisis, est-ce qu'ils sont bien pour l'université. Alors, tous les 4-5 ans, ça, ils ont un accès de fièvre, ils veulent vérifier. Voilà. Donc, je les ai envoyés faire. Ils ont écouté ça, merci, ça fait des années qu'ils sont là, je crois pas que je vais m'enquiquiner avec ça. Ça va clasher dans pas longtemps, ça va être rigolo. Voilà. Bon, ok. Voilà les autres questions que pose Collins et Porras pour savoir si les valeurs sont des valeurs. La deuxième, laquelle des valeurs apportez-vous vous-même le plus à l'organisation? Celle-ci, elle est très méchante. À quoi vous servez, quoi? De laquelle parlez-vous à vos enfants et souhaiteriez-vous qu'ils la pratiquent à leur tour? Si demain vous étiez assez riche pour ne plus travailler, quelles valeurs continueriez-vous de suivre et d'appliquer? Vous voyez, c'est une grille très bien faite qui vous permet d'isoler les valeurs, les vraies valeurs. Et pas seulement ce qui est valeur. Thierry Wellhoff, dans le bouquin que j'ai cité tout à l'heure, là, sur les valeurs des entreprises françaises, distingue très intelligemment, très clairement, les valeurs de communication et les valeurs pour l'externe. Bien sûr, pour l'externe, on va dire qu'on fait de la qualité. Bah ouais, forcément, tout le monde le dit. Vous voyez, en train de dire, bah non, nous, la qualité, c'est pas important. Bon, c'est pas tenable. Mais les valeurs qu'on va exploiter pour l'externe, qui sont des valeurs d'affichage, des valeurs intrinsèques, dit-il, internes, sur lesquelles on ne communique d'ailleurs pratiquement pas. Les valeurs d'affichage, par définition, communiquent dessus. Les valeurs intrinsèques, on communique très peu. Et quand je dis très peu, c'est parfois pas du tout, mais en tout cas, c'est à petite dose. On ne doit pas les exploiter. On prend un petit peu le raisonnement de quelqu'un qui est bon, hein, du sens où on parlait de la bonté, quelqu'un qui est bon ne va pas vous dire tous les jours je suis bon, je fais des bonnes actions. Vous connaissez peut-être des gens qui sont dans des associations caritatives et autres, qui ne le disent à personne. C'est sûrement plus fort que ceux qui se répondent en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Et voilà. Bon. Donc c'est un raisonnement assez classique que reprennent Collins et Porras. Mais ce qui est bien, c'est que cette grille de questions constitue un crible grâce auquel vous allez pouvoir isoler assez facilement les valeurs réelles, les valeurs constitutives d'une organisation. Et ça continue. Continuez-vous d'appliquer ou de défendre une valeur qui jouerait contre l'entreprise? Celle-ci, elle est aussi très dure comme question. Si j'ai des valeurs qui sont tellement ancrées que je dois continuer à les faire fonctionner même quand je compte, ça c'est quand même très très fort. La question 6, laquelle reprendriez-vous dans l'entreprise du même secteur que vous contribueriez à créer? C'est-à-dire que vous a tellement marqué, hein, voilà, bon. Pourriez-vous les envisager aussi valables en 100 ans qu'aujourd'hui? Ils vont loin, ils disent 100 ans. Bon. C'est adapté, hein. Peut-être que 100 ans, ouais, bon. Il faut le diviser par ce que vous voulez, par 5, par... dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. Normalement, il faut, comme le crible qu'on a vu pour autre chose, il faut que vous puissiez faire passer vos valeurs à cette moulinette et qu'à chaque fois, elle résiste aux critères de la moulinette qui est là. Et si la valeur en question résiste, alors c'en est une. Ce qui montre très bien dans l'ouvrage, mais ça il faut le lire pour le bien le s'en convaincre, c'est que c'est un travail parfois à caractère archéologique. C'est que les valeurs, il faut remonter au tout début de la création de l'entreprise pour les retrouver. Il faut exploiter tous les documents de l'entreprise, aussi bien les documents purement internes, compte rendu divers, que les documents externes, interviews par exemple. Et que c'est avec la compilation de tous ces documents et l'interrogation des acteurs qu'on peut arriver à isoler les valeurs. Et c'est comme ça qu'ils s'y sont pris. En fait, c'est leur méthode. Ce que je vous donne là, c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour pouvoir isoler les fameuses valeurs telles qu'on les a rappelées tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut appliquer ça ailleurs que dans les grandes? Ils s'en sont expliqués plusieurs fois. À la fois dans le bouquin, mais très très brièvement, mais surtout dans des articles publiés par la suite, et sur le site de Collins, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut les appliquer ailleurs? La réponse, c'est oui, bien sûr. Dans tout ce qui est sous-structure des grands groupes, qui sont souvent... on avait dit ça à propos des mémoires, quand je vous ai commenté la dernière fois, prenez Orange en France, il y a tellement de sous-structures que parfois, ils ne se connaissent pas les uns les autres. Bon, donc bien sûr que ça va s'appliquer sans aucun problème. Dans les PME, les PMI, oui, avec peut-être un poids encore plus important du fondateur, surtout quand il est charismatique. Beaucoup de PME, PMI, fondées par quelqu'un qui était assez charismatique, va avoir des valeurs très fortes attachées à ce qu'il a fait. Se posera le problème de la transmission, ça c'est ce qu'on a dit, aussi bien pour les petites que dans les grandes. Dans le non lucratif, grand ou petit, ça je vous ai déjà dit, puisque ces approches sur vision et sens sont bien utilisées dans des projets d'aménagement, de développement du tiers-monde, avec quelqu'un que j'avais cité, d'ailleurs que je peux redire, une chercheuse française, Nathalie Beaulieu, qui a publié des choses là-dessus, je vous l'avais dit. Dans les collectivités locales, j'avais donné cet exemple-là, bien sûr. On a vu des villes en France, on a vu des États, des régions, etc. Le secteur social et éducatif, bien sûr. Pardon, je suis peut-être allé un petit peu vite. Ça s'applique aussi. Et ça, c'est très important de le savoir pour répondre à la critique assez facile, genre « Oui, mais ce que vous nous racontez, ça ne concerne que les grandes entreprises. »
La réponse, bah, non, pas du tout, ça peut concerner n'importe quel type d'organisation, qu'elle soit à but lucratif ou non, qu'elle soit grande ou petite, quel que soit son secteur économique, qu'on soit dans un secteur high-tech avec beaucoup d'innovation, ou dans un secteur social, éducatif, etc. Et les approches vision peuvent être très très utiles dans des secteurs comme le social, par exemple, dans lequel on a des acteurs très 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 éparpillés, qui souvent interviennent de façon très très indépendante les uns des autres, et là, l'approche vision peut être très très utile. Et rendre les gens plus efficients, pour dire ça. Alors, quelques exemples puisés au fil des années de la façon dont les visions se représentent sous forme visuelle, hein, voilà. Vous voyez que souvent, on a, il y a l'exemple du soleil et ses rayons, l'exemple de l'arbre et de ses racines. Bon, on est tout à fait dans le schéma de tout à l'heure. Là, vous l'avez de cette façon. On pourrait dire que c'est peut-être un petit peu trop apparition divine. Ça fait penser à l'iconographie religieuse, hein, c'est ce qu'on pourrait dire d'un certain point de vue. Bon, chacune de ces visions est à réinterpréter en fonction de son environnement, bien sûr, mais je crois que j'en ai mis d'autres. Voilà, alors celle-ci, elle est pas mal. Voilà, sur une... Ça peut être très très complexe, hein. Vous voyez, là c'était sur les questions éducatives, comment chaque acteur pouvait s'y retrouver. Enfin, mais il y a toujours du visuel, vision visuelle, sinon ça ne peut pas passer. Bon, alors, on va peut-être aborder, bah, on va peut-être se faire la pause, oui, avant d'aborder ça, puisque c'est bien, on est à peu près dans les temps. Donc, après avoir vu Collins et Porras, qui dans la lecture est fortement conseillé pour les faire pas dire obligatoire, on va passer ensuite du temps sur une des principales méthodes de Vigano. Et si j'ai choisi cette méthode, c'est parce qu'elle est utilisée, enfin directement, elle n'est pas utilisée par les intervenants de l'AOR. Pierre Barrère, par exemple, demain, l'utilise, enfin, pas directement. Jean-Claude Loiseau, vous aurez plus tard non plus, Carmen Cavalier non plus. Voilà, donc j'ai choisi la méthode d'un universitaire à partir de laquelle toutes les autres peuvent se greffer. Mais chacun d'entre eux a après sa propre méthode qui vous exposera plus ou moins. Ce sera plutôt Pierre Barrère, puisque demain. Enfin, non, je ne vais pas vous dire ce qu'il vous fait, vous le verrez bien. Il y aura une évaluation avec Pierre Barrère, mais elle se fera la deuxième fois. Vous aurez un exercice en sa présence, hein. Et ce sera le 2 ou le 3 décembre, quand il revient la deuxième fois. Demain, il faut que vous fassiez son tour. Voilà, bon, on s'arrête. On s'arrête et on reprend sur la TAM. Oui.